Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, remise et reprise hier jeudi dans plusieurs ministères à Kinshasa. D'entrée de jeu, le nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité promet la restauration de l'autorité de l'État dans tout le pays. Deuxième et dernier jour ce vendredi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP en RDC. Au Maniema, à la fin de la première journée, les élèves rencontrés se disent satisfaits du déroulement de ces épreuves. Et puis, clôture cette semaine à Bounia d'une série de formations sur la désinformation et les discours de haine en Ituri. Formation en faveur des journalistes des radios communautaires de l'Ituri, financée par l'ambassade de France en RDC. Pour en parler, nous recevons Thérèse Kankou, la responsable de ce projet. À tous et à toutes, bonjour. L'actualité reste marquée par la prise de fonction officiellement hier jeudi de plusieurs ministres ici à Kinshasa, ce après l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale, mais aussi après la remise et reprise entre le chef du gouvernement sortant, Samalou Kondé, et l'actuelle première ministre, Judith Souminois, cérémonie intervenue mercredi. Le condensé de la journée de jeudi avec Grace Hamzati.
C'est depuis le matin que les rendez-vous étaient pris dans plusieurs ministères pour la prise des fonctions des nouveaux membres du gouvernement, notamment au ministère du Plan où le vice-premier ministre Guilain Nyembo, ancien directeur du cabinet du chef de l'État, a pris ses fonctions. Julien Paluku prend le bâton de commandement du commerce extérieur après la remise et reprise avec Jean-Lucien Boussa, nouveau ministre du portefeuille. Les deux ont fait le même exercice, l'un avec son successeur à l'industrie Louis Kabamba Watum et l'autre avec sa prédécesseur au portefeuille Adel Kaïnda. Le nouveau ministre du Développement Rural, Mwindo Nzangi, passe les bâtons de commandement de l'enseignement supérieur à Safi Songo Ayan. Remise et reprise également dans la journée au ministère de la Justice, des Sports, de l'Éducation nationale, des Finances, de l'Intérieur et Sécurité et à tant d'autres ministères.
Entre-temps, protection de l'industrie locale pour lutter contre la concurrence qui est faite à partir des produits qui viennent de l'extérieur et promotion des exportations des produits congolais. Ce sont là, entre autres, les piliers importants que s'assigne le ministre du Commerce extérieur. Julien Paluku Kaungia l'a déclaré hier à Kinshasa en marge de la cérémonie de remise et reprise avec son collègue Jean-Lucien Boussa. Julien Paluku, dans ses propos recueillis par Paul Matendo.
Parmi les piliers importants que nous allons inscrire sur notre ligne, notre trajectoire, il y a celui de la protection de l'industrie locale pour lutter contre le dumping ou alors la concurrence qui est faite à partir des produits qui viennent de l'extérieur. Mais au-delà de la protection de l'industrie locale, nous allons poursuivre le travail qui est réalisé par notre collègue, celui de la promotion maintenant des exportations. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se limite seulement à produire au niveau local, mais nous devons permettre que les produits congolais accèdent au marché international. Déjà, nous avons la GOA, qui est une loi américaine, qui permet à ce que tous les produits qui viennent de l'Afrique subsaharienne accèdent au marché américain sans paiement des frais des douanes. Peut-être les gens n'ont pas suffisamment été au courant de cela. Nous allons faire la promotion des produits congolais pour qu'ils soient consommés, par exemple, aux États-Unis à travers cette facilité qu'on appelle AGOA.
Pendant ce temps, les conditions de vie des déplacés de Kwamout vivant dans la ville de Bandundu se détériorent de plus en plus. Il s'agit de ceux qui ont fui les atrocités de la milice Mobondo dans le territoire de Kwamout au Maïndombe depuis près de 2 ans. Ces personnes en détresse disent n'avoir reçu aucune assistance du gouvernement et manquent de prise en charge tant alimentaire que sanitaire. Dans une déclaration faite mercredi, ces déplacés lancent un SOS au gouvernement souminois qui vient d'être investi et au président de la République afin de leur venir en aide pour qu'ils puissent retourner dans leur milieu respectif. François Tabouko est le président de ces déplacés. Il explique au micro de Irène Boma.
Nous, déplacés de Kwamoutou, vivant dans la ville de Bandundu, au sud du déplacé Site Malebo. Depuis que nous sommes ici, nous avons totalisé 2 ans, sans apport du gouvernement national ni gouvernement provincial. La situation ici est devenue plus pire. Aujourd'hui même, nous avons un déplacé qui vient de mourir. Les cadavres à la morgue, pas d'assistance. Nous-mêmes, nous cherchons des voies et moyens pour l'enterrer. Avec quoi? Trop de malades au site. Les enfants souffrent de la malnutrition. D'autres parents souffrent de l'hypertension, causée pour les raisonnements. Pas de soins. Nous demandons au gouvernement de venir vraiment à notre aide pour que nous puissions quitter ces milliers, qu'ils nous donnent des moyens possibles. Vraiment, nous souffrons. Si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Le gouvernement est maintenant en place, qu'il vient nous donner des moyens pour que nous puissions quitter ces milliers. Nous demandons à notre président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de venir vraiment vite à notre assistance dans la ville-province de Bandundu. Sinon, nous allons terminer.
Dans l'actualité aussi, deuxième et dernier jour ce vendredi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP, sur toute l'étendue du territoire national. Au Maniema, à la fin de la première journée, les élèves rencontrés déclarent être satisfaits du déroulement de ces épreuves avant d'affirmer que les questions étaient conformes aux matières apprises. Ils s'expriment au micro de Florence Kizalunga.
Moi, c'est Kankou Kalenga Richard Ezurcé. Pour aujourd'hui, c'était bien passé. Et si ça sera ainsi pour ce vendredi, on va beaucoup réussir. En tout cas, merci pour le surveillant. Il nous surveille bien. Nous avons la foi que nous allons réussir.
Moi, c'est Marthe. Et aujourd'hui, c'était bien passé. Nous avons fait l'anatomie, mathématiques ainsi que technologie. C'était bien passé les premiers jours aujourd'hui.
Moi, c'est Salim. Les questions qu'on a vues, c'est conforme aux matières vues à l'école. Vraiment, c'était facile.
L'examen était bien passé. Je suis sûre de ce que j'ai fait. Que mes parents me préparent déjà les cadeaux, je vais réussir.
Moi, je vais réussir quand j'ai bien travaillé. Pour l'examen de ce vendredi, je vais encore bien travailler.
Les questions étaient faciles, par exemple pour la mathématique, les questions étaient faciles. Vraiment, j'ai bien travaillé.
Les questionnaires étaient tellement faciles et je vais réussir.
Santé au Nord Kivu. Au moins 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans devraient bénéficier du vaccin contre la poliomyélite intégré à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole, ce à travers toutes les 34 zones de santé de la province du Nord Kivu. La deuxième phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier à Goma, étendue jusqu'au 15 juin prochain. Cette phase vise à renforcer l'immunité des bénéficiaires, indique la conseillère spéciale du gouverneur militaire en charge de la santé. Pour Madame Priska Kamala, la zone de couverture prend en compte les sites des déplacés et même la zone occupée par les rebelles du M23, excepté les villages situés dans les champs des combats. En Ituri, au moins 20 cas de banditisme armé avec 8 décès sont enregistrés depuis janvier dans la cité de Mongwalu. Nous sommes à environ 85 km de Bunia, dans le territoire de Djougou. Le dernier cas est celui d'un négociant d'or abattu dans la nuit de mercredi à hier jeudi par des hommes armés qui ont emporté de l'argent et un colis d'or de son comptoir d'achat d'or. Deux autres personnes étaient victimes lundi dernier des attaques des bandits armés. La société civile locale dénonce ce regain de criminalité et recommande aux autorités de stopper ces violences. Chérubin Kukundilawa, responsable de la société civile de Mongwalu, joint par Jean-Claude Loki.
Nous estimons que le bouclage peut être important parce que les tueurs sont supposés être parmi la population, mais qui ne sont pas encore identifiés. Avec le bouclage, de façon inattendue, ça peut permettre à ce qu'on puisse appréhender soit des armes, mais aussi appréhender des suspects. Et loin de là, ce que nous sommes en train de déplorer, la population n'est pas encore en train de jouer suffisamment son rôle, celui de dénoncer, parce que la population doit collaborer avec les autorités. Et du côté des autorités, nous pouvons plaider pour le renforcement d'équipes, donc renforcement des policiers en effectif, mais aussi en matériel adapté pour de tels types de situations, surtout la mobilité. Nous avons des policiers à Mongwalu, mais qui n'ont pas de mobilité et qui sont en nombre insuffisant. Cela peut faire aussi à ce qu'il peut y avoir des dégâts qui se commettent, mais les auteurs vont se volatiliser sans qu'il y ait des personnes à leur poursuite, d'autant plus que la police est en difficulté de mobilité et en difficulté de personnel.
Autre nouvelle, le mouvement d'élite pour le développement et le vrai changement dit s'insurger contre la non-réhabilitation des routes en RDC, ce malgré le déblocage des fonds. Dans une déclaration faite mercredi à Kinshasa, ce parti politique de l'opposition extra-parlementaire demande au nouveau gouvernement de se pencher sur cette question des infrastructures routières et à ne pas tomber dans les erreurs du passé. On écoute à ce sujet le secrétaire général du mouvement d'élite pour le développement et le vrai changement, Augustin Bissimoua, dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
On a été surpris au niveau du MDVC de constater que tous les députés nationaux, y compris ceux de l'Union Sacrée, tous, en tout cas sans exception, ont peint un tableau sombre des infrastructures routières dans notre pays. En ce qui concerne les routes nationales, aucune route, en tout cas aujourd'hui, se trouve dans un état acceptable. Toutes les routes de notre pays se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Et donc, la question qu'on se pose reste celle de savoir, chaque année du premier quinquennat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, chaque année, il était prévu la réhabilitation des routes au niveau du budget. Et on se pose des questions pendant 5 ans, à tout moment que les programmes ou les budgets avaient prévu la réhabilitation des routes, quelles sont les routes qui avaient été réhabilitées? Où étaient partis tous les fonds qui étaient budgétisés chaque année pour les routes? Voilà la question qu'il faut se poser. Et nous, au niveau du MDVC, nous demandons que les gens aient l'amour de ce pays. Nous n'en avons pas deux. Nous devons les servir. C'est notre pays, on n'en a pas deux.
Justement, parlant des routes, ici à Kinshasa, le district de la Tchangou est connu pour ses difficultés de transport, surtout aux heures de pointe. Le boulevard Lumumba est la seule artère qui le traverse de bout en bout. Avec la nombreuse population qui y réside ou qui y exerce ses activités, les bouchons sont monnaie courante, ce qui oblige souvent les habitants à parcourir des longs trajets à pied. Mnosayama Siki s'y est rendue, elle nous en parle dans ce reportage.
C'est un après-midi ordinaire. Nous sommes dans un taxi-bus communément appelé 207. Nous venons de la commune de Kinshasa et nous nous rendons à Massina. Arrivés au pont Matete, nous sommes entrés dans un bouchon. Toute la bande allant vers l'aéroport est bloquée. Impossible même au taximen moto d'Iwewa de se frayer un passage. Après 45 minutes, nous sommes nombreux à descendre des véhicules et motos pour opter pour la ligne 11, la marche à pied. Conducteurs et passagers se plaignent de cette situation.
Nous sommes fatigués avec ces embouteillages. Pour bien circuler ici à Tchangou, il faut quitter aux environs des 5 heures du matin.
Chaque jour, on sort avec les embouteillages, on revient avec...
Samedi dernier, j'ai dû rentrer à pied du pont Matete jusqu'à mon domicile et je n'étais pas le seul.
À la base de cette situation, la Tchangou ne dispose que d'une seule route principale, le boulevard Lumumba. Mais au-delà, les usagers relèvent...
Les tracasseries. Le roulage nous inquiète beaucoup.
Le mauvais stationnement. Il y a des ceux-là qui ne respectent pas les bandes. C'est le terme qu'on appelle d'ailleurs collier.
Outre la construction des routes secondaires, certains proposent ceci.
Que le train urbain reprenne du service. Il permet de déplacer une masse importante
en un temps record.
Las de marcher à pied, nous avons fait demi-tour. Massina, nous pourrons nous y rendre la prochaine fois.
Retournons au Nord Kivu. Au moins 42 000 vies ont pu être sauvées en 2023 en province sur plus de 78 000 besoins en dons de sang enregistrés. Ces chiffres sont donnés par la conseillère spéciale du gouverneur militaire en charge de la santé. C'était hier dans une déclaration faite aux médias à la veille de la célébration aujourd'hui 14 juin de la journée mondiale du donneur de sang. Une occasion offerte à Priska Luanda Kamala de passer un message de reconnaissance envers les donneurs bénévoles dont le service est important en ce moment de crise sécuritaire au Nord Kivu. Priska Luanda Kamala dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat.
Le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du don de sang, une occasion solennelle de reconnaissance de la contribution combien noble des donneurs de sang volontaires dont les gestes salvateurs réguliers et non rémunérés accompagnent les systèmes, surtout en cette période où la méchanceté humaine de l'agresseur ne cesse de causer, à tort, des morts et traumatismes injustifiés. Grâce aux dons de sang volontaires, en province du Nord Kivu, 42 248 vies humaines pour un besoin de plus de 78 356 ont été sauvés en 2023. Votre don sauve des vies et garantit la sécurité de notre communauté.
Notez que cette journée est commémorée sous le thème 20 ans de célébration du don des sangs. Merci à tous les donneurs de sang.
Actualité internationale.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, révèle que plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été soignés pour malnutrition aiguë dans la bande de Gaza et 28 d'entre eux sont décédés. Face à cette situation, l'OMS et ses partenaires ont tenté de renforcer les services de nutrition dans la bande de Gaza, explique le docteur Tedros Adhanom au cours d'un point de presse jeudi à Genève. Une grande partie de la population de Gaza est confrontée à un niveau catastrophique de manque de nourriture et à des conditions proches de la famine.
L'invité.
Clôture mercredi à Bounia d'une série de formations des journalistes et radios communautaires de l'Ituri. Cette formation sur la désinformation et les discours de haine s'est déroulée dans le contexte de conflits armés en Ituri. Une équipe de Radio Kapi partie de Kinshasa a conduit cette formation dans le cadre de projets d'appui aux radios communautaires financés par l'ambassade de France en RDC. Pour en parler, nous recevons Thérèse Kankou, la responsable de ces projets. Elle est avec Ezekiel Mouzalia.
Thérèse Kankou, bonjour.
Bonjour.
Que peut-on retenir justement sur ces projets que Radio Kapi pilote déjà depuis un bout de temps sur l'appui des radios communautaires?
Merci Ezekiel. Depuis le mois de février, Radio Kapi est en train de relancer progressivement son réseau des radios communautaires à travers le pays. Et pour l'instant, nous distribuons ou disponibilisons deux contenus à ces radios-là. Il y a Ban en Kapi, l'émission des jeunes qui passe de lundi à vendredi de 15h30 à 17h. Et également le programme Parlons français qui est une émission hebdomadaire où on apprend la langue française qui est financée par l'ambassade de France. Donc il faut noter que les radios avec lesquelles nous travaillons sont au départ des radios qui relaient déjà pas mal de programmes de Radio Kapi, notamment les journaux, les dialogues entre Congolais, Parole aux auditeurs, au Kapi Service. Et depuis le mois de mars, nous avons formé des journalistes au Sud Kivu, au Nord Kivu et tout récemment, on était à Beni, donc au Nord Kivu et maintenant on est à Bounia. Donc le souhait est que ces formations soient élargies dans tout le pays.
Qu'est-ce que vous attendez de ces radios, de tous ces journalistes que vous êtes en train de former?
Oui, déjà il faut dire que les formations que nous dispensons pour l'instant, ce sont des formations qui portent sur la désinformation, la mésinformation, la malinformation et la vérification des faits, ça c'est un module, et également une autre formation sur les discours des haines. Je l'ajoute aussi, ces formations sont appuyées par l'ambassade de France, en appui avec aussi le bureau conjoint des Nations Unies, mais organisé par les bureaux de la division d'information publique. Ce qu'on attend, c'est qu'on veut outiller les journalistes, les sensibiliser pour vraiment donner une information crédible aux auditeurs. Ils savent c'est quoi une désinformation, c'est quoi une mésinformation. Ils pourront bien traiter l'information et donner une information crédible. Il y a aussi les discours de haine. Donc les journalistes doivent savoir distinguer c'est quoi un discours de haine, comment ils doivent traiter l'information justement en évitant les discours de haine et la désinformation.
Ces radios n'ont pas de moyens logistiques pour fonctionner, pour peut-être se déplacer et tout pour recueillir des informations. Est-ce que ce programme ou bien ce projet a des idées peut-être d'appuyer ces radios, qu'elles soient efficaces et qu'elles puissent répondre justement aux attentes de Radio Kapi?
Oui, l'appui c'est déjà ça, hein. C'est déjà les formation qu'on a commencé. J'ai dit au début que c'est un programme qu'on relance progressivement et pendant qu'on échange avec pas mal de journalistes et radios communautaires, ils nous remontent ces besoins-là. Mais pour l'instant, on y va progressivement avec les partages des contenus et aussi les formations qu'on disponibilise. On espère élargir cela à travers tout notre réseau et déjà les besoins, beaucoup de journalistes ont exprimé ce besoin, pas seulement les formations sur la désinformation, les discours de haine, il y a beaucoup de formations. Donc sur ce point-là, on le fait déjà. Et pour d'autres besoins, on va les remonter. Et comme on est en train de faire ça progressivement, on ne manquera pas de communiquer les résultats ou bien les réponses que nous aurons obtenues auprès de la hiérarchie.
Nous sommes dans un contexte sécuritaire, surtout à l'Est. Hein, et la plupart de ces radios œuvrent justement dans des contextes sécuritaires vraiment difficiles où les journalistes sont vraiment coincés pour avoir une bonne information. Vous pensez que cette formation va apporter sur eux, par exemple?
Oui, donc les journalistes, déjà, quand on forme, hein, ils ont déjà une bonne base. Dans le contexte qui est celui de l'Uterie, par exemple, les journalistes doivent plus veiller à leur sécurité. Mais comment les journalistes veillent sur leur sécurité? Justement en appliquant les règles journalistiques, de vérifier l'information, de la sourcer, et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la responsabilité des journalistes. Donc ils doivent vraiment faire montre de tout ce qu'ils savent en tant que journalistes pour se sécuriser. Nous sommes contents, hein, du retour qu'on a. Si à Bougne, on a fait 3 jours de formation, on a formé une 60aine de journalistes. On espère en former encore plusieurs. On a un bon ressenti. Les journalistes ont soif d'apprendre et ça nous encourage encore à faire des plaidoyers auprès de notre mission pour vraiment élargir ces formations dans plusieurs coins. Et on attend aussi les suggestions, hein, parce qu'il y a des sondages qu'on fait aussi. On écoute. Ça nous aide aussi dans les cadres de notre travail pour voir comment améliorer, faire davantage, quoi.
Madame Thérèse, merci.
Merci, Ézéchiel.
Voilà, notre invitée, c'est Thérèse Kankoutamboué, responsable du projet d'appui aux radios communautaires. Elle répondait aux questions d'Ézéchiel Mouzalia. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Alain Rongouchinge, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix en compagnie de Baya Tchamala.